Bonjour à tous, nos chers auditeurices. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce 36e épisode de Subculture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorité du monde entier. J'en parlerai, mais je ferai peut-être une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser un peu plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno ou la house. Comment sont-ils apparus ? Pourquoi ? Dans quel contexte ? Et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone ? C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce que l'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial, mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique. Qu'ils soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musical et technique. Restitué, la dernière fois, nous avions vu les prémices de la musique électronique et les expérimentations de Pierre Schaeffer et Pierre Henry avec la musique concrète. Et la toute première musique électro à succès, Popcorn, en 69. Donc la fin des années 60 a vu l'essor de la musique électronique populaire et sa fusion avec d'autres genres musicaux, notamment la pop et le rock, ce qui a conduit à l'établissement de nouveaux genres. Des musiciens renommés de l'époque, tels que les Beatles ou les Beach Boys, ont commencé à intégrer des instruments électroniques, notamment le theremin ou le mellotron, dans leurs sons. Des genres comme le rock électronique et l'électronica ont été lancés par le duo américain Silver Apples et des groupes de rock expérimentaux comme White Noise et les United States of America, connus pour avoir ajouté des oscillateurs et des synthétiseurs à leurs sons psychédéliques. Dans les années 70, le rock électronique a également été produit par un certain nombre de musiciens japonais, comme Isao Tomita ou Osamu Kitajima.
Whoa!
Les synthétiseurs d'ambiance sont devenus particulièrement populaires parmi les groupes de rock progressif que l'on a abordés dans un épisode précédent, souvenez-vous. Notamment Pink Floyd, Genesis, Yes et Emerson, Lake & Palmer. Un tout nouveau sous-genre de rock progressif, le krautrock, également connu sous le nom de Cosmische Musik, est né en Allemagne de l'Ouest à la fin des années 60 et au début des années 70, représenté par des artistes de premier plan tels que Tangerine Dream, Can, Faust et surtout Kraftwerk. Kraftwerk est fondé en 1970 par Florian Schneider Esleben et Ralf Hütter. Le premier joue de la flûte et du violon, le second du piano et de l'orgue. Ils se sont rencontrés en classe d'improvisation pendant leurs études au conservatoire de Düsseldorf en 1968. Leur goût partagé pour la musique expérimentale électronique, que la presse qualifiera plus tard de mouvance krautrock, scelle définitivement leur amitié. Après une première première expérience au sein du groupe allemand Organisation, jugée insatisfaisante, le duo sort les albums Kraftwerk en 1970, Kraftwerk 2 en 1972 et Ralph und Florian en 1973. Sa musique très avant-gardiste rencontre un succès mitigé. De 70 à 73, le groupe Kraftwerk se présente officiellement comme un duo. Durant cette période, cependant, Florian Schneider et Ralph Hütter ont été accompagnés par une demi-douzaine de musiciens différents, présents pour jouer en concert ou pour les sessions d'enregistrement du premier album, Kraftwerk. Les musiciens les plus notables de cette époque ont été le guitariste Michael Rother et le batteur Klaus Dinger, qui formèrent ensuite le groupe Neu, que l'on a déjà mentionné, il me semble, mais je vous mets un extrait quand même. Kraftwerk, au début, ça ne rencontre pas un franc succès, peut-être trop en avance sur son temps. En 70, ils font un concert, ça ne ressemble pas à la musique qu'ils feront plus tard, c'est clairement de la techno-trance près de 20 ans avant. Un rythme inspiré de la polka, très binaire, et une mélodie un peu pop, très électronique et répétitive. Franchement, c'est choquant pour moi de voir qu'ils ont fait ça en 1970, je le rappelle. Influencés par les vastes complexes industriels de leur région, la Ruhr, Kraftwerk reproduit dans ses disques l'atmosphère industrielle faite de sons répétitifs et sa vision du monde autour du béton des grandes villes et de la modernité technologique. Nous avons forcément été influencés par le rythme de notre langue maternelle, par les sons industriels d'un environnement comme la Ruhr, explique Ralph Hütter en 2002 pour Le Monde. Mais comme ce style trop avant-gardiste ne plaît pas, il change un peu de style toujours très indus et répétitif. Tout de même, sorti en novembre 1974, l'album Autobahn, autoroute en allemand, rencontre un succès mondial l'année suivante. Soucieux de tout contrôler, les deux membres fondateurs se séparent alors de leur ingénieur Connie Plank et créent leur propre studio d'enregistrement, Kling Klang, à Düsseldorf, en Allemagne. Le peintre et graphiste Emil Schultz participe à la conception de la pochette de l'album Ralph & Florian en 1973 et devient par la suite un collaborateur influent et régulier du groupe. Au début, il jouait à l'occasion de la guitare basse et du violon électrique. Très vite, son rôle dépasse celui du simple concepteur visuel. Il participe à l'écriture des paroles de certaines chansons, discute des concepts et accompagne le groupe lors de ses tournées. La composition du groupe se forge de manière plus définitive à partir de 1975, pour la tournée de l'album Autobahn. Durant cette période, le groupe se présente comme un quatuor électronique composé des fondateurs Ralf Hütter et Florian Schneider Esleben, rejoint par les percussionnistes Wolfgang Flur et Karl Bartos, ce dernier succédant à Klaus Roeder qui jouait du violon électronique sur l'album Autobahn. Wolfgang Flur avait déjà intégré le groupe en 1973 en tant que batteur dans le cadre d'une apparition télévisée du groupe pour la promotion du troisième album. Cette première apparition de leur instrument de percussion, une batterie électronique qu'ils avaient eux-mêmes construite et jouée par Flur, a contribué à les faire remarquer. Bartos a collaboré à l'écriture de nombreux morceaux de Kraftwerk parmi les plus mémorables. Ils sortent par la suite des titres célèbres comme Radioactivity, Trans-Europe Express ou The Robots en 1978 sur l'album The Man Machine, qui feront de Kraftwerk l'un des groupes les plus échantillonnés après James Brown. We'll be right back. En parallèle, la musique New Age et la musique ambiante, en particulier le dub ambiant, se sont développés au début et au milieu des années 70 sous l'effet de la montée de la musique d'art électronique. La musique New Age a été fortement influencée par divers artistes, pour la plupart d'origine européenne, dont le compositeur français Jean-Michel Jarre, le musicien allemand Klaus Schulze ou le compositeur grec Vangelis. Le dub ambiant a été lancé par plusieurs musiciens jamaïcains comme King Tubby, puis adopté par d'autres artistes internationaux comme Dreadzone, The Orb ou Hot. Thank you. après que le disco, que l'on va aborder bientôt, soit devenu très populaire pour une période assez courte dans les années 70, la fin des années 70 et le début des années 80, on vu l'émergence et le succès grandissant de la synth-pop, avec le synthétiseur comme instrument musical dominant. Ce sous-genre a été lancé et grandement influencé par des musiciens tels que Ultravox avec la chanson Hiroshima Mon Amour en 1977, Depeche Mode avec un titre intitulé Dreaming of Me en 1980 et New Order avec sa chanson Ceremony en 1981. D'autres groupes importants sont Eurythmics, Duran Duran, Yazoo et Spandau Ballet. Synthpop a acquéri une grande renommée dans le monde entier en présentant de nouveaux artistes prometteurs comme Lime et The Men Without Hats du Canada, Propaganda, Sandra and the Modern Talking d'Allemagne ou Yellow de Suisse et Telex de Belgique. Mais ça, ce sera pour de prochains épisodes. Et oui, c'est déjà fini. Subculture, c'est tous les lundis 13h15 et 19h15, le samedi 11h et le dimanche 22h sur Radio FM+, la fréquence 91 de la bande FM bien sûr, ou sur radiofmplus.org via l'onglet Écouter le direct. Et vous pouvez toujours écouter et réécouter tous les épisodes précédents en podcast, en écoute à la demande ou téléchargement, toujours sur radiofmplus.org en tapant en Subculture dans la barre de recherche du site. Et moi, je vous dis à plus, à ciao, big up.